Allô? Allô? Je m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de vous joindre à nous pour près de 57 minutes d'échange et de partage d'en parole aux auditeurs. Depuis 2005, le troisième jeudi du mois de septembre d'octobre a été choisi pour célébrer la journée internationale pour la résolution des conflits à l'initiative de l'association pour la résolution des conflits. Selon cette association, qu'il soit d'ordre familial, de voisinage, commercial ou social, la médiation s'impose pour chaque conflit. Lorsque les oppositions se font au niveau des régions ou des pays, toutes les énergies doivent être employées à la résolution, à l'amiable du conflit, à la négociation, sans arriver jamais aux confrontations physiques ou militaires. Notons que la République démocratique du Congo connaît plusieurs conflits depuis près d'une décennie, au nombre desquels des conflits armés. Que proposez-vous pour une résolution durable des conflits en RDC? Nous en parlons avec Luc Lutala, expert en résolution des conflits. J.R. Lungembo, Titimputu, Jean-Noël Mokondo réalisent cette émission supervisée par Nicole Ngaka et Piero Elamé. Je vous la présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Piero et la Mégie.
Plusieurs formes de conflits se présentent en RDC, que ce soit des conflits coutumiers, fonciers, mais aussi des conflits armés depuis plus d'une décennie à travers le pays. Nous en parlons avec vous. Quelles peuvent être pour vous les pistes et des solutions pour résoudre d'une manière durable tous ces conflits? Vous pouvez nous appeler au 081-890-43-39, 081-890-43-39 pour intervenir en direct dans cette émission. Selon l'association pour la résolution des conflits, quel que soit l'ordre de ces conflits, la médiation s'impose. Même quand ces conflits pourraient opposer toute une région ou deux pays, ils pensent qu'il serait mieux de procéder d'abord à la négociation sans en arriver à la confrontation physique, voire même confrontation militaire. C'est ainsi que le troisième jeudi de chaque mois d'octobre a été consacré depuis 2005 à la réflexion sur la résolution des conflits entre le peuple, entre les communautés à travers le monde. Et nous en parlons avec vous. Mais vous pouvez aussi le faire également en nous déposant votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs pour participer, bien sûr, dans cette émission où nous allons recevoir d'un moment à l'autre M. Luc Lutala, qui est expert en résolution des conflits, les conflits qui peuvent toucher notre vie d'une manière ou d'une autre à travers le pays et au niveau des différentes communautés. Nous en parlons avec vous. Appelez-nous au 081-890-43-39, 081-890-43-39. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. D'ailleurs, notre invité vient de faire son entrée dans ce studio, le temps qu'il puisse s'installer. Et nous allons ensemble faire les points avec vous sur les pistes de solutions pour résoudre les différents conflits qui peuvent se présenter à nous. Monsieur Luc Lutala, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un honneur.
Bien sûr, la journée internationale pour la résolution des conflits depuis 2005, chaque troisième jeudi du mois d'octobre. Et nous connaissons que la RDC a beaucoup de problèmes, des conflits, que ce soit les conflits armés, que ce soit les conflits fonciers, les conflits coutumiers. Nous avons beaucoup de formes de conflits aujourd'hui à travers le pays, mais nous allons ensemble avec les auditeurs dégager les pistes des solutions pour résoudre ces conflits d'une manière durable. Mais revenons d'abord au terme qui peut permettre à nos auditeurs de comprendre c'est quoi un conflit.
Alors, il y a conflit lorsqu'il y a deux forces en présence. Mm-hmm. Ça veut dire généralement deux individus, deux communautés. Alors, ces deux forces qui sont en présence représentent en fait deux intérêts. Mm-hmm. Alors, ces deux intérêts, ils se dégagent dans leur mise en relation une certaine incompatibilité. Mm-hmm. Et de là, il va se dégager chez une partie ou l'autre partie. Mm-hmm. Le souci de imposer son point de vue pour faire prévaloir son intérêt sur le point de vue de l'autre individu ou de l'autre communauté qui est en présence. Mmh. Et généralement, le conflit se déclenche lorsque ce souci de faire prédominer son intérêt sur celui de l'autre ne tient pas compte des intérêts, de la dignité ou des droits de l'autre. Mmh. À partir de ce moment-là, la personne ou la communauté qui est en face va se révolter parce qu'elle sentira que ses droits ont été bafoués ou qu'on a violé ses droits ou qu'on a plus ou moins entamé ses intérêts. Alors à partir de ce moment-là, il y a une révolte qui sera soit tacite, qui sera soit violente.
Est-ce qu'on peut dire que le conflit peut, dans leurs multiples origines, peut avoir aussi des facteurs extérieurs? C'est qu'il ne peut pas venir de moi, ça peut être de forces qui peuvent se conjuguer pour produire un conflit dans une communauté, dans un milieu, soit entre des individus ou soit entre des groupes d'individus.
Tout à fait. Alors, lorsque on fait une analyse des phénomènes conflits, il va y avoir deux causes qui sont d'abord l'individu lui-même ou la communauté elle-même. Et généralement, c'est la cause première sur laquelle le médiateur ou l'expert médiateur se base. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les causes exogènes, les causes qui viennent de l'extérieur, qui en fait ne sont que, si vous voulez, des stimulus définitifs pour que le conflit se manifeste. Mm-hmm. Et donc, en ce moment-là, on aura une idéologie, on aura, par exemple, des personnes venues d'ailleurs, des influences venues d'ailleurs, pour renforcer en fait la conviction d'une des parties au conflit ou l'atténuer.
Et dans les types de conflits, parce que vous travaillez sur le terrain dans la résolution des conflits, quels sont les différents types de conflits auxquels vous faites face à chaque fois que vous êtes peut-être sur le terrain?
Bon, d'abord, d'une manière tout à fait étonnante, c'est des conflits individuels. Vous n'avez pas idée que ce soit dans on rencontre que ce soit dans les institutions gouvernementales, que ce soit dans les institutions des acteurs non étatiques. Le premier conflit est de manière extraordinaire. C'est d'abord le conflit individuel. Mm-hmm. Des gens qui sont dans les mêmes communautés. Et des gens qui, en fait, ont le même intérêt, mais ne voient pas cet intérêt. Et ensuite, c'est de manière tout à fait globale, il y a des intérêts qui se déclenchent entre des communautés qui ont des origines différentes. Par exemple, vous verrez des communautés comme les communautés pygmées qui ont des conflits avec les communautés bantoues, ou vous verrez qu'il y a les Kassaïens avec les Katangais, et que vous verrez, par exemple, que généralement, vous allez voir, comme dans notre pays, on va parler des gens des provinces et des gens qui sont les natifs des territoires. Mais sans qu'on se rende compte, le premier conflit reste le conflit interindividuel. Mm-hmm. Et c'est celui-là qui est d'ailleurs la base. Et ce conflit interindividuel est d'autant plus intéressant qu'il se retrouve partout. Des gens au sein du même cabinet ministériel, des gens au sein d'une même direction, des gens au sein d'une même ONG, des gens au sein d'une même coalition, des gens au sein d'une même communauté tribale, de manière tout à fait extraordinaire. Mais ça, c'est révélateur. C'est révélateur de ce que, lorsque nous parlons de la paix, nous parlons en fait de un défi de l'humanité tout entière. La paix, en fait, veut dire le niveau d'évaluation de l'humanité dans sa compréhension de sa propre valeur. Mmh. À quel moment, à quel niveau l'humanité est arrivée en évaluant sa valeur en tant qu'humanité et sa capacité de bâtir le bonheur.
Mmh. Voilà, avant d'écouter les auditeurs comme Théodore qui est à Kisangani, Théodore est en Bujma et Crispin est à Kisangani, revenons d'abord par... Est-ce que le conflit individuel peut être génitaire d'un grand conflit qui peut toucher la communauté, voire même une sous-région, comme aujourd'hui on parle des conflits dans le Grand Lac par exemple, ça, on a connu ça, mais est-ce que cela peut partir aussi d'un conflit individuel?
Absolument. Alors, ce qui est très important de noter dès le départ pour les experts ou les médiateurs, c'est que d'abord, un homme heureux ne fait pas la guerre. Ça, c'est le principe de base. Mm-hmm. À partir du moment où il y a un conflit, à partir du moment où il y a une guerre, cela veut dire nécessairement, où que ce soit, dans quelque culture que ce soit, dans quelque pays que ce soit, quelle que soit la race à laquelle on a affaire, un conflit veut dire une souffrance. Donc les personnes qui font la guerre, c'est des gens qui ont des conflits intérieurs d'abord, elles-mêmes. Maintenant, ce qui va se passer, c'est au niveau de la médiation, et là, quand on va arriver à parler des inconscients collectifs, on va se rendre compte que lorsque quelqu'un est en conflit, il va attirer autour de lui toujours des gens conflictuels, plus ou moins, parce qu'il faut que ses intentions conflictuelles se manifestent. Mm-hmm. Alors, l'individu, tout conflit, en fait, part d'un conflit au sein d'un individu. Souvenez-vous de la Deuxième Guerre mondiale, qui est partie d'un seul individu, qui était Hitler, qui a attiré autour de lui des conseillers comme tel. Souvenez-vous que autour de la situation, que tous les conflits que l'on vit partent toujours d'une personne qui a tellement d'énergie pour mobiliser l'énergie conflictuelle qui est dans les autres personnes et attirer autour de lui des conseillers, des gens, des militaires qui ont suffisamment de frustrations et qui sont absolument disposés à rejoindre le camp conflictuel.
Voilà, on va revenir à ça. Il y a beaucoup de choses autour de problèmes des conflits. 081-890-4339, c'est notre numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Théodore, vous êtes en Boujimaï, au Kassai Oriental. Bonjour.
Auditeur et à l'invité du jour.
Vous avez suivi d'ailleurs, il y a tout à l'heure une information qui venait de passer même sur Radio Capi avec un atelier, je crois, bien une réflexion en Boujimaï par rapport au problème des conflits. On en a dénombré plus de 110, hein, mais 26 qui sont prioritaires. On parle de ce problème des conflits. Quelle que soit l'origine du conflit et sa nature, vous avez suivi l'introduction avec notre invité. Pour vous, qu'est-ce qui peut être dégagé en RDC comme mesure pour pouvoir résoudre durablement le problème des différents conflits qui s'opposent à nous?
Ok, avant de passer à ma proposition, la résolution des conflits nécessite beaucoup de sérieux dans la société humaine, vis-à-vis de la famille, des religions, de l'État et de tout un peuple. Suite à une lutte, un choc, un combat créé par l'antagonisme des intérêts, des jalousies, de la haine clanico-tribale et de la convoitise sur les richesses dans un pays ou dans une province qui est à la frontière. Pour la famille, par exemple, un conflit peut surgir un homme ayant des moyens consistants vivant dans une maison et des pièces avec 8 enfants. La femme ayant vu son mari avec beaucoup d'argent fait une réclamation, il demande une maison où il peut mettre les enfants, les garçons et les filles et leur chambre et puis le salon dans de bonnes conditions. Et l'homme, quand il voit cela, il chasse la femme. Il chasse la femme, il se remarie, il prend une autre femme, il meuble. Maintenant, les 8 enfants sont restés en conflit. Il réclame leur maman. L'homme refuse que la femme rentre, la femme réclame de rentrer, c'est un conflit qui demeure. Et puis, je m'en vais aussi pour montrer pour la communauté, par exemple, religieuse. Ces disputes, les églises, des écoles construites par le Belge, par exemple, il y a des églises, des écoles, des hôpitaux. Alors, les églises se divisent, et d'autres se disent autonomes, d'autres se disent représentants légaux. Et puis, les croyants, à leur tour, vivent séparés les uns et aux autres, dans un conflit interminable. Et pour l'État, par exemple, l'État face à l'administration, à la sécurité, à la bonne gouvernance, ainsi de suite, le pouvoir et l'opposition vivent dans des conflits du pouvoir. Par exemple, l'autre dit, par exemple, que vous n'avez pas contrôlé le ministre, vous n'avez pas contrôlé le gouverneur.
Théodore, pour gagner le temps, vous avez, on peut avoir autant d'exemples, hein, on peut entrer dans beaucoup de domaines et tout ça. Mais alors, tout cela mélangé, qu'est-ce qui peut être fait pour vous, pour une résolution durable, bien sûr?
Ok, pour moi, il faut que les parlementaires arrivent à créer une loi pour permettre à la société civile de mettre en place une commission de résolution des conflits dans les pays. Voilà un peu ça.
Voilà, merci beaucoup Théodore. Vous pensez que tout passe par une commission qui peut être instituée grâce à une loi votée bien sûr au Parlement, qu'on ait une loi qui institue une commission de résolution des conflits. Vous pensez que cela peut parvenir d'une manière durable à résoudre le problème des différents conflits que le pays connaît? Crispin, vous êtes à Kisangani. Bonjour Crispin.
Bonjour.
On vous écoute Crispin. Qu'est-ce qui peut être fait pour résoudre d'une manière durable les différents conflits qui s'opposent à RDC?
Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Bonjour à l'invité et bonjour à la radio Capi. Quant à moi, je suis en partie d'accord avec cette façon de résoudre le conflit par en fait dialogue. Et par dialogue, moi, je sous-entends donc résolution à l'amiable. Or, quant à moi, résolution à l'amiable ne peut que venir s'il n'y a pas encore casse. Ça veut dire s'il n'y a pas encore confrontation physique. Mais si on est déjà arrivé au niveau de confrontation physique, de casse, je ne crois plus que le dialogue, la résolution amiable apporte vraiment la paix durable. Quant à moi, je dirais qu'il y a plusieurs aspects qu'il faut mettre en jeu. Et cela, suivant le niveau, ou soit le degré du conflit. Si le conflit est encore sans mort d'homme, on peut le traiter d'une façon amiable. Mais s'il y a déjà mort d'homme, on peut envisager la justice de là. Et tout comme, par exemple, pour par exemple, des conflits armés, des fois, il faut envisager aussi la confrontation aussi armée pour donner la solution. Parce que en négociant, vous risquez de tomber à accepter les actions criminelles, ce qui mettra toujours dans le cœur des gens la frustration et la haine. Ça ne sera pas une résolution amiable. Mais si au moins on arrivait à bouter ces groupes d'une façon armée et peut-être mettre en justice d'autres criminels ou soit ceux qui sont compromis dans le conflit, ça peut beaucoup soulager et
résoudre le problème. Voilà. Merci. Merci, Crispin. On peut retenir des Crispin, que vous pensez que tout dépend de, du degré de conflit. Si c'est déjà un conflit avec confrontation, par exemple, armée, vous voyez comment c'est difficile de pouvoir aller à l'amiable. Mais vous pensez aussi qu'il faut des confrontations armées. Il faut les opposants ainsi parce que si jamais on va d'une négociation qui permette à ce que des criminels poussent des auteurs des crimes, surtout avec leurs victimes, ensemble, ça risque d'être d'engendrer aussi des frustrations et dans la résolution des conflits et son maintien. Merci beaucoup, Crispin. Gaston, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi d'abord le premier auditeur qui a pensé qu'il faut passer par une commission instituée par une loi qui puisse se pencher sur ces problèmes de résolution des conflits en RDC. Mais notre ami de Kisangani dit, bon, il a peur que terminer un conflit d'une manière amicale, si on peut le dire ainsi, surtout en ce qui concerne les conflits armés, cela peut frustrer les victimes qui peuvent se retrouver en cohabitation avec leur bourreau. Quel peut être votre point de vue par rapport à ces deux positions dans la résolution durable des conflits?
Oui, disons, c'est en soi leur position. Ils ont prôné la résolution pacifique des différences. C'est d'ailleurs le mode qui est aussi prévu dans la Charte des Nations Unies que les États ont souvent tendance à recourir, voire les individus qui peuvent, s'ils ont un conflit entre eux, ils peuvent recourir aussi à ces modes ici, mais c'est pas l'unique mode pour régler les conflits. Mais à mon avis, j'allais préciser une chose. C'est que nous devons nous fixer les idées sur ceci. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé à Berlin. Disons, un groupe d'hommes s'est décidé de nous imposer d'ailleurs des lignes géographiques imaginaires que nous appelons actuellement les frontières. Ils nous ont éparpillés. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des communautés humaines qui vivaient en solidarité pendant longtemps, mais ils se sont décidés de nous éparpiller. Et non seulement nous éparpiller, mais aussi contraindre d'autres communautés à vivre côte à côte, tandis qu'ils ont, disons, des langues très différentes, coutumes et règles de vie qui sont vraiment, disons, étrangères les unes vis-à-vis des autres, voire les ennemis. Donc, vous vivez côte à côte avec vos ennemis. Suite à cette, disons, fusion-là des multi-ethnies, ça fait que, sur le plan de la gestion du pouvoir, vous savez que, même si on dit que vous êtes d'une communauté quelconque, mais sur le plan de l'État moderne, disons, vous êtes ensemble. Donc, il y a une chose qu'on appelle la chose commune, qui est cet État ici, qui est censé cette fois-ci être géré par toutes les communautés. Mais imaginez que ça pose problème à ce stade-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous... Et une communauté passe au pouvoir, vous allez constater que c'est toute la communauté qui s'enrichit au détriment des autres qui, par ce fait-là, vont devenir, disons, ça va provoquer la haine et la haine peut susciter des guerres. Donc, je vais dire ici, c'est que nous sommes plusieurs communautés. Alors, lorsqu'une communauté passe au pouvoir et qu'il y a l'inégalité en ce qui concerne la distribution des ressources, ça va provoquer la haine ainsi que la guerre. Sur ce point-là, à mon avis, je pense que, pour tenir compte en ce qui concerne l'un d'entre les États qui a plusieurs communautés, de pouvoir voir ceux qui sont au pouvoir peuvent travailler pour l'intérêt de tout le monde ou carrément on associe toutes les communautés au pouvoir pour qu'il y ait une transparence en ce qui concerne la gestion de la chose commune qui est l'État moderne, qui est différent de la communauté.
Merci.
Mais j'allais aussi poser un autre problème par rapport à la gestion en soi de nos États.
Allez-y rapidement, oui.
Vous allez constater qu'en soi, les États actuellement, entre eux se battent, hein, ceux qui sont poussants cherchent à garder cette position-là ou de envie de dominer les autres. Et lorsque vous multipliez les stratégies pour dominer les autres, ou soit si vous considérez fort vis-à-vis de notre État, vous allez chercher à mater cet État-là. Et vu cette situation, l'État maté peut faire de telle sorte qu'il y ait un conflit. Donc, à mon avis, l'État conçu dans le sens de Berlin, ça pose beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que ça réunit plusieurs communautés qui vivent en division, des divisions permanentes. Ça regroupe des communautés, disons, des coutumes, des communautés, des petites communautés qui vivent en parallèle, des fois qui ne s'entendent pas. Donc, imaginez avant de prendre l'exemple de Bandundu.
Oui, oui, Gaston, s'il vous plaît, on ne saura pas monopoliser la parole pour ne pas se perdre. Vous avez donné autant d'exemples. Hein. On savait qu'il y a beaucoup de communautés, on peut le dire ainsi, au Kassai, au Katanga, partout dans toutes nos provinces. Mais si je vous écoute, vous dites qu'il serait mieux au niveau du pouvoir politique associer toutes les communautés qui se retrouvent aujourd'hui au Congo, par exemple, dans la gestion du pouvoir politique pour éviter qu'il y ait des frustrations. Parce que là, vous avez donné un exemple de ce que je peux appeler la tribalisation du pouvoir. Si, par exemple, c'est telle communauté qui accède au pouvoir, c'est toute cette lignée-là qui s'enrichit, c'est cette communauté qui a les privilèges et les autres se sentent frustrés et ils ne pourront que aller en conflit. Si c'est aussi prendre le pouvoir, le cycle risque de revenir ainsi. Alors pour vous, il faut prévenir, il faut agir en amont pour éviter qu'on ait des conflits. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Kinshasa, où les auditeurs nous suivent sur 103.5 MHz. Nous allons écouter Edemaga qui est à Butembo. C'est au nord qui vous. Bonjour Edemaga.
Oui, bonjour la radio Papier, bonjour à tous les auditeurs de la radio Papier.
On vous écoute, monsieur, pour la résolution des conflits.
Oui, je pense que je dois d'abord commencer par un témoignage. Ouais, la résolution des conflits, ne nécessite pas toujours le cristal de l'État. Quoi. Parce que les conflits, quand il y a un conflit, par exemple, le conflit possible, il faut la négociation. Parce que les langues parlent, c'est là dans la famille. Une fois le conflit possible arrive au niveau de l'État, vous voyez, ça va produire beaucoup de séparations. Je me souviens un jour, parce que dans un milieu où il y avait des cimetières qu'on a créés pour. C'était la construction d'un individu, alors c'est là où on a mis ça comme le cimetière. Alors, à un moment donné, le propriétaire a dit qu'on satisfait désormais qu'on doit de localiser le cimetière. Alors, ça a vraiment beaucoup produit des résultats de faire ce que nous sommes. Alors, oui. Alors, la situation vraiment, on avait fait la négociation au niveau de la maison qu'on n'a pas tenu. Il aurait fallu arriver avec la résolution au niveau de l'État, jusqu'à ce que l'État qui aurait fait vraiment une bonne résolution à ce côté-là.
Voilà, merci Edemaga, vous êtes à Butembo. Vous pensez d'abord qu'il ne faut pas toujours recourir à l'État pour résoudre les différents conflits. Il faut d'abord, d'une manière à l'amiable, il faut le faire. Mais quand il s'agit des conflits fonciers, vous avez donné un exemple, hein, on a fini par recourir à l'État pour résoudre ces différents. 081-890-4339, c'est notre numéro d'appel pour intervenir dans cette émission et donner votre piste de solution pour résoudre d'une manière durable, hein, les différents conflits qui se présentent en RDC aujourd'hui.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi, de 11 à 12h, et mercredi, dès 10h, heure de Kinshasa.
Luc Loutala, vous avez suivi nos auditeurs. Je m'en vais, en fait, tout de suite, je me rends compte qu'il y a des propositions qui vont de la prévention, de la gestion et tout ça. Mais dans le schéma, qu'est-ce qui peut être privilégiée dans le schéma de résolution des conflits. Parce qu'il y en a qui ont parlé des conflits armés, il y en a qui ont parlé des conflits au niveau des communautés. Entre les deux schémas, qu'est-ce qui peut être privilégié aujourd'hui de toutes ces propositions qui vont de la prévention à la gestion de conflits, oui.
Bon, je crois il est question d'avoir une vue globale. Et de voir d'abord que les auditeurs réagissent selon les conflits qui se passent dans leur milieu. Et qu'à partir de ce moment-là, cela demande beaucoup de responsabilité. La responsabilité au niveau des responsables, des dirigeants, d'avoir une vue globale de ces conflits. Bon, maintenant, il y a les conflits armés. En ce qui concerne le conflit armé, il va de soi, les Nations Unies prévoient ce qu'on appelle d'abord les mesures de stabilisation. Donc, lorsque des gens se battent, que ce soit de manière armée, que ce soit avec les bras, avec ils se cachent sur la route, il faut d'abord stabiliser cela. Alors, ça déjà, beaucoup de gens considèrent cela comme une résolution de conflit. Mais à partir de ce moment-là, il va falloir distinguer entre résolution de conflit et consolidation de la paix. Et au-delà de consolidation de la paix, il y a la culture de la paix. Parce qu'il y a trois étapes dans le processus de construction d'un monde de paix. Donc, quel que soit le conflit, lorsque les gens s'affrontent et qu'il y a un choc, il faut stabiliser ce conflit. Alors, il va de soi, l'humanité va avancer de plus en plus vers des mesures de stabilisation entre humains. Ça veut dire les humains doivent devenir plus rationnels pour dire, bon, maintenant nous sommes en conflit, nous nous arrêtons parce que finalement tous les conflits finissent par s'entendre. Et que la solution que l'ami a donnée de Boutembo est une solution qui demande la sagesse. Le monde qui va venir demain sera un monde moins politique, mais un monde de plus de sages. Et pour voir les preuves de ce qui se passe maintenant, vous allez voir comment est-ce que le monde entier a accueilli Obama. C'est pas parce que c'était un bon politicien, mais on a trouvé qu'il était plus sage. Et que, voyez l'exemple de Mandela. Donc, de plus en plus, l'humanité est en train d'évoluer d'une vision politique à une vision des sages. Et que, à partir de ce moment-là, la culture de résolution de conflits doit s'en prendre de la sagesse. Parce que dans un pays comme celui-ci, vous trouverez que même la justice n'est pas toujours l'instrument le mieux placé pour départager les gens, et que des gens qui partent en justice passent d'échelon en échelon et disent non, on n'a pas trouvé la justice. Donc, les différents acteurs, surtout la société civile et les gouvernements, devraient privilégier de manière prioritaire, lorsqu'on n'a pas affaire aux conflits armés, des voies de conflit tout à fait sociales, où on met les individus autour d'une table, l'ancien adage « l'arbre à pas l'arbre », pour que les gens se départagent, s'entendent, se réconcilient.
Et quelle peut être la place des acteurs du conflit dans cette procédure, bien sûr? Parce qu'on a vu aussi des conflits qui ont... Par exemple, on peut évoquer le cas de la Somalie, on en a parlé dans beaucoup de documents, qu'il y a eu autant d'échecs, des fois parce que les acteurs locaux n'ont pas été impliqués dans toutes les stratégies d'élaboration, peut-être au niveau des Nations Unies, par exemple, pour la résolution de ces conflits. Alors, quelle peut être la place des acteurs dans la procédure de résolution des conflits? Peuvent-ils être associés à l'élaboration du CANEVA, du plan, ou vont-ils voir tout simplement les experts, les facilitateurs venir dans leur milieu pour les écouter et leur présenter les schémas?
Dès le départ, la première, je crois même les Nations Unies travaillent de la sorte, le premier schéma est toujours d'associer tous les acteurs. Alors, à partir de ce moment-là, on va se rendre compte qu'au cœur de conflit, on a deux aspects fondamentaux. Il y aura l'égoïsme ou il y aura la lâcheté. Sans les deux, il n'y a pas de conflit possible. Donc, les médiateurs dans le processus vont se mettre à évoluer la capacité de flexibilité des acteurs, parce que pour que quelqu'un prenne le pouvoir, il faut qu'il y en a un qui le refuse. Donc là, l'égoïste, quand il y a conflit, il y a toujours un qui est égoïste, et parfois c'est lui qui va dire, qui s'est plaint, il sera plus ou moins lâche. Alors, à partir du moment où l'égoïste a eu affaire à être sur la table et que les médiateurs le mettent devant les responsabilités et montrent à chacun sa part de responsabilité au conflit, proposent des mesures de harmonisation pour que on trouve des mesures équilibrées où chaque partie se retrouve et que les deux parties continuent à vivre de l'avant. Si on se rend compte qu'une partie n'a pas montré suffisamment de bonne foi, malgré les concessions mutuelles qui ont été accordées. Et que, deux, trois fois, on a fait des propositions et qu'on a vu qu'il y a toujours de la mauvaise foi. À partir de ce moment-là, toute la communauté qui est consciente de la justice a la responsabilité de mettre la partie égoïste devant un fait accompli et de lui dire, voilà, à partir de maintenant, toutes les pistes de solutions équitables ont été proposées pour que tout le monde se retrouve, mais toi, tu as refusé. À partir de ce moment-là, toute la communauté peut prendre des mesures. Des mesures, et parfois les Nations Unies arrivent à prendre de telles mesures. Mais encore, dans la culture de la paix, il va falloir que l'on comprenne très bien que les Nations Unies font un grand travail, mais que, là encore, on a beaucoup à travailler, parce qu'aux Nations Unies, c'est encore des humains aussi.
Mais comment on peut procéder, avant d'écouter Bertin, qui est en Boujma, et Rachel, qui est à Issiro, parce que nous avons parlé des préventions, on dirait que l'attitude d'aujourd'hui, c'est plus, les stratégies se développent quand il y a des gens en conflit, on voit les gens aller sur le terrain, mais alors on voit peut-être de moins en moins les gens qui sont déployés en amont pour prévenir.
Alors, les matières traditionnelles, il va de soi que nous sommes dans une société en crise. Il ne faut pas oublier cela. Et que, maintenant, ce qu'ils devraient faire, les piliers doivent être l'éducation. Et cette éducation, c'est vraiment à partir de la petite enfance, que les enfants soient éduqués à l'éducation à la paix. Il y a la justice, les instruments de justice. Il y a l'administration de l'État. Il y a les instruments de développement, il y a les acteurs. Et donc, dernièrement, vous savez qu'il y a eu le forum du dialogue politique sur l'éducation à la paix, qui a réuni le ministère de l'Éducation avec tous les acteurs. J'ai participé à ce forum du dialogue politique. Ce que nous avons proposé est que, s'il y a de tels dialogues, c'est qu'il faut innover sur les solutions. Et on a tablé sur comment mettre en place une éducation pour la paix. Ce que nous avons dit à ce forum et que nous avons fait comme proposition est que il est important d'innover et d'aller dans le fond, c'est-à-dire il faut voir les causes. Et les causes, ça veut dire, pour une fois, la RDC peut être le moteur d'une éducation qui n'a jamais existé nulle part ailleurs. L'éducation, la justice, la technologie ne sont pas des éléments de paix ni de justice. Alors à partir de ce moment-là, il faudrait que toute éducation implique notamment le fonctionnement de l'être humain pour voir comment est-ce que l'être humain arrive à créer des conflits. Ensuite, c'est les valeurs fondamentales, une société des valeurs fondamentales. À partir du moment où on arrive aux valeurs fondamentales et qu'on éduque les enfants dès le bas âge, on va préparer des générations qui vont de plus en plus marcher vers la paix. Mais l'éducation de la petite enfance ne veut nullement pas dire qu'il faut oublier les adultes qui existent déjà. Et donc, c'est un travail à faire, éventuellement avec tous les adultes qui ont des responsabilités.
Bertin, vous êtes en Boujma, Rachel et Taïsiro et Jules Alboumbachi. Nous allons vous accorder la parole pour votre point de vue dans cette émission consacrée à la résolution durable des conflits en RDC.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Bertin, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Vous êtes en Boujimaï, au Kassa Oriental. Vous avez suivi les uns et les autres. Vous avez suivi aussi notre invité. Nous dégageons ensemble les pistes des solutions pour une résolution durable des conflits en RDC. Quel est votre point de vue?
Ok, merci de la parole que vous accordez et l'opportunité aussi de donner notre point de vue à l'ensemble de la population congolaise qui nous suit. Je salue, je commence par saluer l'invité et tous ceux qui vont intervenir. De mon point de vue, je remarque que nous, les uns et les autres, nous nous attardons beaucoup sur les causes internes et qui sont immédiates, qui sont, à mon avis, les intérêts partisans, apparentes aux intérêts du groupe et avec des ramifications à l'étranger, tout ça. Bon, de mon point de vue, ce sont des causes apparentes qui sont visibles maintenant. Et parce qu'on s'attarde sur ces causes-là, on est allé des conférences, en conclave, des sommets, et on n'en finit pas, on n'en sort toujours pas. Alors, de mon point de vue, il faut aller chercher des causes un peu plus loin aussi. Et de mon point de vue, il s'agit, nous devons rentrer jusqu'en 1959, 1960, et réexaminer la manière dont nous avons divorcé avec nos amis belges. Est-ce que nous n'avons pas mal négocié ce divorce-là? Parce qu'aujourd'hui, quand je remarque, nous sommes aujourd'hui comme une femme qui a mal divorcé avec son mari et qui maintenant s'accroche aux autres maris et ça ne prend toujours pas. Nous sommes aujourd'hui, tous nos yeux tournés vers la... Hier, c'était des Français, des Américains. Mais aujourd'hui, nos amis belges, notre ancienne métropole, où sont-ils? Est-ce que nous n'avons pas mal négocié ce divorce-là avec nos amis belges? Parce que je m'en souviens, lorsque nous avons négocié cette indépendance, les Belges avaient accepté le principe, nous avaient dit, dans 30 ans, dans leurs 30 ans, si nous étions en 1960, c'est-à-dire nous aurions eu notre indépendance en 1990. Mm-hmm. Et voilà que nous l'avons eu en 1960, et jusqu'à aujourd'hui, en 2012, plus de 50 ans, et nous sommes encore nulle part. Est-ce que ce n'est pas là-bas? Nous sommes aujourd'hui en train de chercher à construire une maison en étage sur un truc qui n'a pas une fondation solide. Voilà notre point de vue.
Merci, Bertrand. Vous pensez qu'il ne faudrait plus s'attaquer, hein? Bon, pas seulement aux causes immédiates que nous voyons aujourd'hui, parlant de conflits armés au Congo depuis un moment. Vous pensez aussi qu'il faut aller plus loin, à ce qui est invisible, voir par exemple dans les relations entre la RDC et la Belgique depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, y a-t-il eu des remous, des inquiétudes auprès des partenaires belges qui aujourd'hui peuvent être à la base des ramifications des conflits que nous vivons aujourd'hui en ce qui concerne bien sûr les conflits armés? Voilà autant de questions que vous posez sur la manière de résoudre ces conflits que nous connaissons en RDC aujourd'hui. Merci beaucoup Bertin pour cette réflexion. Rachel, vous êtes à Issir en province orientale, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute Rachel, qu'est-ce qui peut être fait?
Oui, moi je voulais proposer quelque chose. Bon, je vais donner un exemple concernant les couples. Si par exemple il y a un problème dans les couples et que la femme va aller s'exprimer, est-ce qu'on doit directement comprendre la femme ou on doit interpeller si le mari peut écouter si c'est vrai ce que la femme avait dit? Bon, je voulais dire concernant notre pays, ce qui est en train de se passer dans notre pays. Bon, je ne comprends pas, les gens disent que non, je ne dois pas soutenir les MZ3 pour. Je ne sais pas, mais je vais savoir des questions. Pourquoi on ne peut pas donner à Roger Mbal de s'exprimer pour éviter seulement des conflits? Bon, enfin, on appelle Roger Mbal, on écoute ce qu'il lui veut nous dire. On est des que les gens sont en train de dire que non, là, vous aider les M23. Donc, je ne sais pas. Je voulais seulement dire ça.
Mais Rachel, vous avez évoqué, hein, parce que nous avons un conflit armé aujourd'hui en RDC, il y a le M23, et d'un côté avec le gouvernement, mais vous avez évoqué les cas de Roger Lumbala. D'ailleurs, si vous avez suivi sur les antennes des Radio Capi, hein, vous pensez que, disons, du côté du gouvernement de Kinshasa, on accuse Roger Lumbala d'avoir participé au soutien au mouvement insurrectionnel M23, et nous sommes dans une procédure aujourd'hui où le procureur général a fait un réquisitoire au niveau de l'Assemblée nationale pour lever l'immunité de Roger Lumbala afin qu'il soit poursuivi. Et la procédure aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, vous l'avez suivi sur Radio Capi et dans d'autres médias, c'est que on lui a donné 5 jours pour qu'il vienne s'expliquer d'abord au sein devant l'Assemblée nationale, et l'Assemblée qui va s'assurer pour savoir s'il faudrait aujourd'hui les déférer devant les juridictions compétentes ou non, et lui aussi, il a demandé de son côté la protection et les garanties sécuritaires. Alors, l'exemple que vous avez donné dans un couple, c'est dans le sens où on ne peut pas, quand on veut résoudre un conflit, condamner une seule personne sans pouvoir écouter l'autre. C'est cette procédure qui est engagée par l'Assemblée nationale qu'on ne peut pas condamner Roger Lumbala sans pouvoir l'écouter. Vous pensez aussi que dans la résolution des conflits, il faut écouter les deux camps qui s'opposent. Merci beaucoup, Rachel, pour cette réflexion d'ici en province orientale. Nous avons Jules qui est à Lubumbashi avec Ismaël. Jules, on est ensemble. Bonjour. Jules, bonjour.
Ouais, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Nous parlons de la résolution des conflits. Quelle peut être pour vous la procédure efficace aujourd'hui en RDC?
Oui, monsieur le journaliste, pour parler de la résolution des conflits, il faut aussi parler des causes. Parce qu'on ne peut pas oublier des causes qui provoquent des conflits. Parce qu'on peut donner des résolutions aujourd'hui. Mais lorsque les causes ne sont pas traitées, voyez-vous que le conflit y aura toujours. Je prends un exemple. Il y a un enfant qui fait de la malaria. Alors, la malaria provoque la fièvre. On traite que la fièvre on ne donne pas les centimes à l'arrière.
Mm-hmm.
Alors vous voyez que là, vous ne faites rien.
Mm-hmm.
Moi, je pense que nous devons traiter les causes avant d'arriver aux résolutions. Prenons par exemple notre pays. Les premiers qui tuent notre pays, c'est l'injustice. Or, l'injustice crée la rébellion.
Mm-hmm.
Lorsqu'il y a la rébellion, et que, prenons par exemple le problème de l'M23. Maintenant, il y a la rébellion, on n'arrive pas à chasser cette rébellion, on n'arrive pas à résoudre, on n'arrive pas à trouver de solution. Sans oublier qu'il y a eu des causes qui ont provoqué cette rébellion. Moi, je pense que chaque fois, nous devons prévenir des conflits au lieu de chercher des résolutions. On peut tant mieux chercher des résolutions.
Mm-hmm.
Chaque fois, des résolutions. Mais tant que nous n'arrivons pas à traiter des causes principales, en tout cas, nous foutons. Prenez par exemple, il y a eu combien de réunions aussi, une petite rébellion de réunions avec un grand pays comme ça. Jusque-là, aucune solution. Alors moi, je pense que des résolutions ne sont pas vraiment efficaces, mais c'est traiter les causes, éviter et prévenir les conflits. On n'est pas tombé à un échec de résolution, tout ça parce qu'on peut donner tant de résolutions, mais ça ne nous tire à rien. On a beaucoup de résolutions. Jusqu'à présent, on tourne en rond. Pour voir ça, voir ça. Donc aujourd'hui, la RDC est à genoux à cause des conflits inutiles et qui n'arrivent pas à gérer. Donc
merci.
Chaque fois, je prends par exemple, vous voyez par exemple le cas des élections de 2011, le 28 novembre. Il y a eu beaucoup de morts. Et tout ça, il y a un groupe de gens qui sont frustrés. S'ils sont bien organisés, ils créent la rébellion. Ça devient encore un problème. Donc voilà, il faut chercher des résolutions. Et ces résolutions n'ont pas de solution. Donc chaque fois, nous devons traiter les causes et non les effets. Parce que, les résolutions que nous cherchons maintenant, ce sont des signes, des symptômes. Mais les véritables causes ne sont pas traitées.
Merci Jules pour cette réflexion. Vous pensez que si on doit mettre du temps à chercher aujourd'hui des pistes, des solutions pour résoudre les problèmes, mais il faut d'abord remonter. Vous avez évoqué un mot-clé pour votre intervention, c'est l'injustice. Il faut lutter contre l'injustice en RDC, résoudre tous les problèmes qui touchent, n'est-ce pas, toutes les communautés, tous ceux qui sont frustrés, résoudre ces problèmes de l'injustice. Et en amont, on peut prévenir les conflits plutôt que laisser les conflits s'éclater et après chercher des mécanismes aujourd'hui et des solutions de déclaration qui vous semblent être moins efficaces parce qu'il n'y a pas d'évolution sur terrain. Merci beaucoup. Jules, on reste à Lubumbashi avec Ismaël et aussi Hubert. Ismaël, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les visiteurs de Radio Capi.
Vous avez suivi votre compatriote, le compatriote qui est avec vous sur place à Lubumbashi, Jules, qui est très inquiet, qui pense le problème c'est de voir plus en amont l'origine des conflits, le problème des injustices sociales. Et si on agit contre ces injustices sociales, on peut prévenir les conflits.
Oui, j'ai agi par rapport. Sinon, c'est comme si je suis contre presque ceux qui vont intervenir. Moi, je dis pour ne pas avoir reçu des conflits au milieu rural, soit au milieu du village, ainsi de suite. Nous ne devons pas avoir la soif du pouvoir. Remarquez un peu la contestation, par exemple, du résultat des élections. Tout cela devait avoir des problèmes intenses au sein de la population. Et je dirais encore, il faut assez que chacun soit à sa place. Juste les églises se mêlent à la politique. Et tout cela aussi donne le pouvoir et la contestation, ainsi de suite.
Mm-hmm.
Moi, je dis si chacun a d'abord les soucis de la population dont il est lui-même fait aussi partie, ça peut aussi aller de l'avant. Et je demanderai aussi à quiconque cherche à avoir un problème. Il faut avoir cherché le pouvoir, mais de quelle façon on peut avoir le pouvoir? Et tel que dans les milieux dont nous ne devons pas avoir souvent les soucis d'être un chef, tant que nous ne savons pas diriger. Remarquez un peu celui qui cherche avec les conflits, par exemple, à l'aide, que je sois capitaine, que je sois major, que je sois le président de la République, tel que nous avons des députés qui ont salué quand même leur honneur. Ça n'a pas de sens. Notre loi, nous devons combattre à quiconque cherche aussi à soulever les conflits au sein de la République. Mais même nous allons faire cela et ça ne peut pas avoir de la place. Non, je demanderai à quiconque de savoir un souci du pouvoir. Il cherche un pouvoir de la bonne manière plutôt que d'entrebasser aussi la situation au sein de la République démocratique du Congo.
Voilà, merci Ismaël. Vous pensez que tout part d'abord de la soif du pouvoir. Hein. Vous vous rendez compte que les gens ont tellement soif du pouvoir qu'ils utilisent n'importe quelle méthode jusqu'à l'éclatement des conflits pour pouvoir accéder à ces pouvoirs-là. Vous souhaitez que les gens puissent avoir en eux les soucis de la population et chercher accéder au pouvoir de manière légale et normale plutôt que procéder par des conflits. Nous allons écouter Hubert. Voilà, merci beaucoup Ismaël. Merci Ismaël. Nous allons écouter Hubert revenir dans ce studio pour donner la parole à notre invité. Hubert, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Oui, on reste à Lubumbashi, oui, on vous écoute. On vous écoute, Hubert, oui.
Moi, je reviens sur l'exemple de notre ami qui a donné de la Belgique. Alors, moi, je donne un exemple qui concerne nous tous. Comment ça peut marcher et qu'il n'y aura pas de conflit à l'avenir du fait que nous avons 11 provinces. Nos 11 provinces, ils ont des partis politiques. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y aura pas la jalousie, il n'y aura pas le conflit, du fait qu'il y a une seule province sur 11, il y a 9 ministres sur 28. Ça, vous ne le dites pas. Comment est-ce qu'une seule province peut avoir 9 ministres sur 28? Pourtant, il y a 11 provinces. Dans les mêmes provinces, il y a 9 ministres. Il y a une famille qui reçoit tout, qui distribue les parcelles, les terrains, qui vend. Et cette famille-là, je crois, est au ciel. Mais disons qu'après, quand cette famille ne sera pas au pouvoir, quand il n'y aura pas 9 provinces, que les autres vont avoir le pouvoir, qu'est-ce que ça va donner? Il n'y aura pas de conflit. Et je termine par.
Voilà, merci Hubert. Vous avez donné l'exemple de la RDC. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Vous pensez qu'il y a un gouvernement de 28 ministres, si une seule province peut avoir 9 ministres, cela peut provoquer des frustrations à travers les autres provinces. Et même au sein d'une même province, vous avez par exemple une famille qui s'arroge tous les pouvoirs si possible dans beaucoup de ministères aujourd'hui. Vous avez dit qu'il distribue des parcelles, qui fait le tout. Et demain, quand cette famille ne va pas se retrouver au pouvoir, une autre famille prend le pouvoir, des frustrations. Ceux qui étaient frustrés hier vont aller aussi vont chercher à se venger. Voilà autant de problèmes. Et vous avez rejoint les amis comme Théodore qui est revenu sur le problème de la redistribution équitable des richesses, des revenus, le partage équitable du pouvoir à travers le pays. Ce qui peut éviter de créer des frustrations et avoir des mécontents qui demain peuvent être à l'origine des différents conflits. Merci beaucoup Hubert de ce point de vue de Lubumbashi. Freddy Luanga, vous êtes ici à Kinshasa, gardez la ligne, nous serons à vous tout à l'heure pour votre point de vue sur cette émission consacrée à la résolution durable des conflits en RDC.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Luc Loutala, vous avez dit tout à l'heure l'exemple de ce qui s'est fait au niveau du ministère de l'EPSP par rapport à l'éducation à la paix, mais il y a un problème avec les adultes aujourd'hui, parce que beaucoup de conflits que nous avons sont des conflits d'origine politique, on peut bien le dire. Vous avez quelqu'un qui est à Kinshasa qui a des relations avec le ministre de l'Intérieur, il cherche son frère qui est resté au village, il sollicite un arrêté ministériel pour remplacer le chef coutumier qui est là-bas. Tout part de la conception politique que les gens ont, comme les amis ont dit, de la soif du pouvoir. Mais quand on voit même les partis politiques dans notre pays, comment ils sont fondés, constitués. Tout de suite, quand je fonde mon parti, si je suis de Bukavu, mon premier voyage, je vais à Bukavu, c'est là où le parti devient fort. Si tu es d'Ilebo, tu fondes le parti sera fort à Ilebo, qui est par exemple à Bassankoussou, c'est un problème. Mais alors, qu'est-ce qui peut être fait en amont au sein de la classe politique, par exemple, comme beaucoup de gens sont revenus sur les plans politiques dans la culture de la paix et dans la prévention de ces conflits?
Alors, globalement, pas seulement aux partis politiques, mais chez tous les acteurs, même des gens qui sont au gouvernement, même ceux qui dirigent des associations, il faut constater, et là nous sommes tout à fait d'accord, qu'il y a, d'une part, beaucoup de gens veulent changer les choses, et ils s'engagent pour changer la société, on en a vu, mais il manque les connaissances nécessaires et les outils nécessaires. Et donc, ça veut dire il faut absolument former les gens. Et ça, c'est le travail. Je crois qu'il y a une communauté des médiateurs qui a été financé d'ailleurs avec l'argent du gouvernement congolais, dont je fais partie aussi, qui s'attelle à ce travail de former les gens, de les outiller pour les rendre capables d'œuvrer pour la transformation de société. Alors, il va de soi qu'en rapport avec cette question politique, l'une des craintes qui est en train d'être exprimée, c'est que avec les élections locales qui vont avoir lieu, que quelqu'un qui a vécu dans un territoire où il n'est pas natif, que lors des élections, on manipule des gens pour l'interdire d'être candidat sous le prétexte qu'il n'est pas de là. Ça appelle la responsabilité de la part des politiciens. Et donc, être politicien, être dirigeant ne veut pas nécessairement dire que quelqu'un est responsable. Beaucoup de gens qui occupent des postes n'ont pas été formés à la responsabilité. Et ça, c'est le travail. On espère qu'il y aura suffisamment de moyens pour qu'il y ait des formations, des sensibilisations de tous les acteurs pour qu'ils soient suffisamment responsables. Mais maintenant, il y a quelque chose qui se dégage dans ce que les gens ont dit. Alors, il y a des amis qui ont dit la Belgique. Et ça, ça devient suffisamment intéressant. Parce que vous allez voir dans la recherche des causes, l'histoire du Congo, c'est comme si le Congo répétait les mêmes événements. Et c'est pas seulement la Belgique. Il faut voir déjà des prototypes. C'est le point de départ vraiment du Congo actuel. Ensuite, il y a eu la colonisation. Ensuite, il y a eu la décolonisation. Ensuite, il y a eu la dictature. Ensuite, il y a eu tous les systèmes des alliances après la dictature. Et finalement, on arrive à une question essentielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir qu'on apprenne au peuple congolais pourquoi est-ce que son histoire se répète. Et ça, ça s'appelle l'explication de l'inconscient collectif congolais. Parce que le Congo, c'est comme un individu, mine de rien. C'est comme on parle d'une famille. On a l'impression que les gens d'une famille, par exemple, on dit les Baluba ou on dit les Basakata. C'est que derrière une identité familiale, il y a en fait une personnalité invisible qu'on appelle l'inconscient collectif. Et nous, Congolais, quel que soit d'où que nous soyons venus, vous allez voir que nous partageons les mêmes problèmes, que ce soit la passivité, le culte de personnalité, le rejet de nous-mêmes, le sentiment d'infériorité, l'amour de ce qui vient de l'extérieur, et plus ou moins le rejet de notre force. Nous sommes un peuple qui a rejeté sa force au fur des histoires. Et il va falloir qu'on arrive à expliquer.
Excusez-moi de vous interrompre, on va écouter les derniers auditeurs, il est déjà sur la ligne, c'est Frédéric qui est à Kinshasa, on va revenir à vous pour conclure, on est arrivé vraiment à une étape très très importante pour conclure cette émission. Frédéric, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, je voulais tout simplement contribuer, je suis professeur d'éducation civique et morale, l'une de mon chapitre. Le chapitre 3, c'est culture de la paix, et j'aime cette émission. Ma contribution est ici. Pour avoir une solution, les études et les solutions que je propose pour les problèmes de conflit, il faut qu'il y ait la solidarité, la justice, la bonne gouvernance et la bonne volonté de gouverner. Et moi, je mets le point sur la bonne volonté de gouverner.
Voilà.
Voici des conflits de l'armée en RDC. Vous allez voir comment la majorité au pouvoir a favorisé le ministre pour la motion de défiance que les opposants ont demandé. Mais c'était le monsieur pour la majorité présidentielle. Pourquoi il doit voter un ministre qui ne fait rien? Nous avons les conflits armés. Mais on vote encore pour cette motion de défiance, pour le retour de ce ministre encore. C'est un problème qui se pose. Alors, je demande à notre invité qui est là, qu'il puisse insister pour la bonne volonté de gouvernance. À part cette bonne volonté,
merci.
Un ministre doit savoir pourquoi il est nommé, pourquoi un député est élu, quel est son rôle, pourquoi pas l'autre qui est
voilà, merci.
Révoqué, et pourquoi lui qui est le ministre.
Merci c'est beaucoup, Frédéric. Voilà, merci, Frédéric. Merci beaucoup Freddy. Vous avez dit que vous enseignez le cours d'éducation civique aux enfants, et d'ailleurs vous êtes civique et morale, vous êtes sur le chapitre qui parle de la culture de la paix. Vous avez évoqué la solidarité, la justice, la bonne gouvernance, mais aussi la bonne volonté de gouverner. Vous avez évoqué l'exemple de ce qui s'est passé au Parlement hier, bien sûr c'est la majorité qui a préféré voter contre la motion présentée contre le ministre de la Défense, mais vous aviez souhaité pour vous qu'on vote pour cette motion, c'est votre point de vue, bon c'est ça aussi la pratique de la démocratie. Mais on revient à vous, Luc Loutala, parce qu'on est en train déjà de conclure cette émission. Je crois bien en 2 minutes et demie, on a suivi les uns et les autres. Et puis, Freddy vous demande d'insister sur la bonne volonté de gouverner, parce que quand on gouverne mal, on provoque des frustrations. Alors, je vous accorde la parole pour terminer votre propos et conclure cette émission.
Alors, ce que Freddy disait confirme exactement ce que je disais. Alors Freddy est dans une position où il pense qu'il n'a pas de rôle à jouer et que le changement de société dépend de celui qui est en face. Le principe que je dis et que je dis à tous les auditeurs, c'est que nous avons des gouvernants qui sont en face. Mais si la population ne change pas, il n'y aura pas de coup de baguette magique. Mm-hmm. Donc, l'évolution de société se fait en partenariat, les dirigeants et les dirigés. Et que le peuple congolais doit prendre conscience de son pouvoir de militer ou de d'œuvrer pour que ces situations soient meilleures. Et c'est pour ça qu'on parle de démocratie. Mm-hmm. Alors, ce que je veux dire, c'est... D'une manière ou d'une autre, du côté du gouvernement, il faut quand même constater qu'il y a cette carence de partager le rêve. Où est-ce que on dirige un pays, mais où est-ce qu'on amène la population? Et de faire participer la population à ce rêve. Il est important que les dirigeants qui regardent l'avenir prennent conscience de ce que cet avenir, c'est pas l'avenir des dirigeants. C'est l'avenir de toute la population, de tout le pays. Et que le rêve des grandes nations, c'est pas le rêve d'un dirigeant, c'est le rêve de tout le pays. Et là, il est important que ceux qui sont au pouvoir, prennent conscience de cela. Mais d'autre part, c'est un enjeu. Moi, j'aimerais bien vous remercier d'avoir organisé cette émission. Mm-hmm. Mais c'est assez profond, hein, à mon avis. Il est impossible absolument d'entamer des questions qu'on n'a jamais abordées, par exemple sur pourquoi le Congo traverse la situation que nous traversons. Il y a une explication et c'est le peuple congolais, c'est les dirigeants congolais qui sont responsables et qui ont le pouvoir. Nous avons le pouvoir de bâtir un avenir meilleur, un avenir de paix. C'est possible.
Merci. Merci bien, Luc Loutala. Nous avons le pouvoir de bâtir un avenir de paix, un avenir meilleur. C'est possible, vous l'avez dit. C'est par là que nous terminons cette émission en remerciant bien sûr tous les auditeurs. Ils ont été très très nombreux à nous avoir suivis aujourd'hui. Et je rappelle que vous êtes expert en résolution des conflits. Pour les auditeurs, on va se retrouver le lundi prochain.
Allô? Allô? Mais ils ne répondent pas?
Et l'émission du 22 octobre prochain sera consacrée bien sûr à la situation à l'est de la RDC. Un autre rapport des experts des Nations Unies publié récemment indexe l'Ouganda dans la crise à l'est de la RDC. Que vous inspire ces rapports au moment où la CIRG a désigné l'Ouganda comme facilitateur dans la résolution de ces conflits à l'est du pays? Vous pouvez déjà vous inscrire à l'adresse pa@radiocapi.net mais aussi déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission et le programme continue sur Radio Capi. Et sinon, je vous souhaite un bon week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.